Laurent Castagnède est avec nous, je le disais, pour cet ouvrage La Bougeotte, nouveau mal du siècle, point d'interrogation. C'est paru aux éditions Éco-Société. Un traitement de choc, dites-vous, s'impose contre la croisiérine, l'avionite ou l'autophilie. Aussi bénigne soit-elle parfois, la bougeotte engendre des effets délétères. Il est grand temps de comprendre comment notre propension naturelle à la mobilité a dérapé pour guérir d'urgence de cette dépendance. Et pourtant, c'est vrai, Laurent Castagnède, nous sommes plutôt des personnes naturellement mobiles et toute l'histoire de l'humanité l'a prouvé.
Oui, c'est vrai que si on revient à l'histoire de l'humanité, effectivement, même il y a plusieurs milliers d'années, on a des personnes humaines hein, qui ont changé de continent, mais c'était quand même tout, des allées simples en général. Et pas des allers-retours quotidiens. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième, c'est que la bougeotte, c'est en fait assez ancien. Hein. C'est-à-dire que le terme bougeotte existe au 19e siècle déjà, mais c'est pas du tout le sens d'aujourd'hui. Au 19e siècle, c'était le foyer, enfin c'était le nid du pigeon, en fait, hein, qui s'appelait la bougeotte, donc c'était la symbolique du foyer.
Ouais.
Et c'est en 1906, en fait, qu'un académicien, Jules Clarecy, pas du tout dans le cadre de l'Académie française, mais c'était quand même quelqu'un de référence, qui redéfinit le terme bougeotte en désignant une maladie. C'est-à-dire, dès le nouveau terme, on va dire, de la bougeotte tel que le conçoit aujourd'hui, c'est défini dès le départ comme une maladie, comme une nouvelle maladie moderne. Alors, on est en 1906, mais en fait, cette maladie, elle est vite analysée comme existant depuis à peu près un demi-siècle, parfaitement lié au transport motorisé.
Oui, mais alors c'est bizarre que ce soit devenu une maladie aujourd'hui et qu'on la considère comme étant une maladie, alors que bougeotte, à la limite, c'est devenu dans le langage populaire quelque chose de plutôt mignon. Quand on dit que tu as la bougeotte, c'est que tu bouges beaucoup, mais ça n'a pas de connotation clairement négative, alors que vous n'êtes pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, dès le départ, quand on regarde la bougeotte dans l'entre-deux-guerres, comme elle est qualifiée dans la presse, on se rend compte que, effectivement, c'est une maladie. Bon, c'est une maladie peut-être pour certains bénignes, mais il y a quand même un caractère sarcastique derrière le fait de désigner quelqu'un, tiens, il a la bougeotte. C'est-à-dire, on sent bien que il y a un petit excès. Alors, on se demande si c'est délétère ou pas. À l'époque, on se rendait compte qu'on rentrait dans l'âge de la bougeotte. Au départ, on sentait bien que il y avait des conséquences sociales, mais qui n'étaient pas forcément extrêmement négatives, parce que avec une ampleur quand même relativement limitée. Même si au niveau de Paris, par exemple, hein, mais je pense que c'est la même chose à Bruxelles à peu près au même moment, on commençait à sentir qu'il y avait une espèce de révolution de l'urbanisme et de la façon dont circulaient les gens à la fois au quotidien pour aller travailler, faire des courses, et puis en week-end ou le dimanche. Ou alors en vacances, on sentait que ça commençait à bouger les lignes de la sociologie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que là, l'excès a conduit à beaucoup d'autres dégâts.
Et le dernier en date étant celui de la pandémie que nous vivons aujourd'hui, puisque l'OMS, mais de nombreux scientifiques et d'autres organisations qui ont pignon sur rue au niveau mondial, ont bien reconnu le lien entre l'hypermobilité et le développement de cette pandémie, et aussi les conséquences environnementales, d'ailleurs, sur lesquelles l'hypermobilité a un effet délétère.
Oui, alors sur la pandémie, c'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire que si on remonte bien avant l'OMS, donc si on se replace en 1851, vous voyez, à l'époque, il y avait des conférences sanitaires internationales, c'est-à-dire des grands médecins qui se réunissaient de différents pays. Leur premier sujet de discussion, c'était la diffusion des épidémies, au 19e siècle, particulièrement le choléra et la peste. Et donc, en 1851, dans la résolution de cette conférence à Paris, donc en 1851, leur conclusion, c'est de dire « attention, les transports modernes, notamment la navigation à vapeur et le chemin de fer, la navigation à vapeur pour les liaisons internationales, évidemment du commerce, et le chemin de fer pour des liaisons plus régionales, sont en train de se développer et vont favoriser la diffusion des épidémies qui, à l'époque, déjà, on parle d'épidémies asiatiques qui remontent par le canal de Suez. Donc vous voyez que la relation entre les transports motorisés et la diffusion plus rapide et plus dangereuse des épidémies, elle est identifiée à l'unanimité dès les années 1850. Vous voyez ? Donc la relation n'est pas nouvelle.
Sauf que Laurent Castagnède, après le premier confinement et après chaque confinement, après chaque vague de Covid, on voit en période de vacances, entre autres, mais aussi bien en dehors de ces périodes de vacances, on va tout le monde reprendre sa voiture, reprendre l'avion, reprendre le train pour bouger ce sentiment de liberté qui est tellement important et qu'on nous a inculqué dès les années, pour notre génération, dans les années 80, ma voiture c'est ma liberté. Aujourd'hui, c'est le transport aérien ou le train, en tout cas le fait de pouvoir se dire « je peux sortir de ma zone dans laquelle je suis resté trop longtemps ».
Oui. Alors ce qui est très bizarre sur cet effet de liberté, c'est que si elle n'était ouverte qu'à quelques-uns, on peut penser que c'est une vraie liberté. L'ennui, c'est que le nombre, la masse, va éloigner les destinations. C'est-à-dire que si par exemple on prend le domicile-travail, en 1960 en France, je suppose que c'était la même chose à peu près en Belgique, la distance domicile-travail c'était 3 km en moyenne. Et on commence à diffuser la voiture individuelle dans les années 60 et vers 1970, on a déjà doublé la distance domicile-travail. Et puis 30 ans plus tard, à partir des années 2000, on est à 15 km. Donc en fait, la liberté de se dire, tiens, je vais pouvoir prendre une voiture pour aller travailler, je vais gagner du temps, ça va être plus pratique, ben, la réponse, c'est faux. Je ne vais pas gagner du temps. On n'a presque jamais passé autant de temps à aller au travail qu'aujourd'hui avec nos moyens super rapides. Ça, c'est pour le quotidien. Donc vous voyez, on est passé de 3 km. On imagine 3 km à pied, voire à bicyclette. C'est un certain temps pour y aller, c'est assez raisonnable. Mais maintenant que c'est 15 km en moyenne, les gens qui sont, donc à peu près la moitié des gens au-delà de 15 km, ce n'est plus que la voiture ou le train de banlieue. Il n'y a plus d'autre choix quasiment. Et ensuite, pour ce qui est du tourisme, par exemple, donc à l'opposé des voyages lointains, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque où vous aviez peu de déplacements motorisés, en fait, aller loin, c'était un dépaysement. Alors, on ne va pas remonter au temps de montagne, où il suffisait de faire 200 km pour changer complètement de langue, de tenue vestimentaire, d'habitat visuellement. Aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, c'est pas une impression, les transports motorisés, ils ont banalisé, ils ont uniformisé, on est dans un mainstream, et pour aller chercher le dépaysement, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus de trajets en distance qu'il fallait les faire il y a 50 ans. Voilà. Pour vous, juste un petit ordre de grandeur pour vous rappeler, en 17 ans, la différence entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, hein, 2003-2020, 17 ans, le transport international par avion, en 17 ans, il a multiplié par plus de 3. C'est-à-dire que en 2019, lorsqu'émerge à fin 2019 la pandémie de Covid-19, en moyenne, chaque jour, il y a 5 millions de personnes qui changent de pays en avion. Donc pour faire vraiment des longues distances en changeant de pays. Donc c'est évident, finalement, aujourd'hui, que quand on confine Wuhan, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de cas à Wuhan, donc la Chine décide de confiner Wuhan, mais en fait, aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Alors qu'il y a quelques décennies, ça aurait pu fonctionner certainement. Alors vous allez me dire, la pandémie, elle aurait quand même eu lieu. Oui, d'accord, mais elle se serait répandue beaucoup moins vite, elle aurait laissé certainement plus de temps au vaccin d'être développé et d'être diffusé.
Mmh. Oui, cette liberté dont on parlait il y a quelques instants, entre guillemets, elle a un prix. Et vous avez déjà souligné le fait qu'effectivement, aujourd'hui, au lieu de gagner du temps, on en perd. Et cette bougeotte, elle est intrinsèquement liée aussi au développement des transports. Et on n'a jamais eu autant de choix de transport aujourd'hui. Et en même temps, eh bien, tout cela a un coût sur la société, un coût sur notre santé, un coût en matière de pollution, pollution de l'air, des océans, pollution de bruit aussi, et plein d'autres choses. On va donc essayer de comprendre avec vous aussi d'où nous vient ce besoin absolu de bouger à tout moment et à tout instant, et quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, puisqu'on a parlé du travail, mais on pourrait parler des loisirs aussi, le fait de consommer. On nous invite à aller en dehors des villes pour consommer, donc à nous déplacer. On nous invite aussi pour les loisirs à aller aussi, également en dehors des villes, donc à se déplacer. Pour les vacances, c'est la même chose. On va en reparler dans un instant, ce sera après une page de pub, et on reprendra aussi également vos témoignages. Vous l'expliquez bien dans votre ouvrage aussi, hein, Laurent Castagnède, cette bougeotte, elle est intrinsèquement liée au développement des transports. Mais aujourd'hui, nous ne bougeons plus pour les mêmes raisons. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi on bouge autant.
Oui, je reviens sur juste avant la chanson, vous avez parlé de « on a aujourd'hui beaucoup de choix ».
Oui.
C'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, vous regardez la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, ce sont des gens qui bougent beaucoup, hein, avec leur voiture, mais qui n'ont pas du tout le sentiment d'avoir le choix. Ils ont l'impression plutôt d'être des damnés, des condamnés à la route. Et donc, on a quand même une certaine illusion de ce choix, et qui converge vers une espèce de ségrégation sociale, en fait, entre les gens d'un côté qui ont véritablement le choix, ponctuellement, quand ils veulent, de prendre des moyens rapides, et d'un autre, une autre catégorie de population pour qui les transports, c'est vraiment chronophage et c'est subi. Donc attention sur le terme choix, l'illusion, effectivement, si on écoute les publicités, etc., on sent que, ah oui, le choix est partout. Mais en fait, on a énormément de dépendance pour beaucoup de catégories de gens.
On a Sylvie qui nous dit l'hypermobilité est liée à la temporalité. On peut avoir la bougeotte parce qu'on peut bouger vite. C'est ce que, c'est, oui. Ça explique aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez les voyages en avion ou même certains voyages en bateau qui sont assez rapides ou en voiture, aujourd'hui, on peut bouger de manière beaucoup plus rapide et cette rapidité nous incite aussi à bouger plus.
Oui, alors c'est à la fois la rapidité et le fait que ce soit bon marché. C'est-à-dire que, par exemple, la rapidité pas bon marché, ça s'appelle le Concorde, ça s'appelle l'hélicoptère pour aller au travail, et là vous comprenez que c'est une caste très, très serrée qui est capable de les utiliser. Donc c'est bien la rapidité bon marché. Alors ensuite, pourquoi ça s'est développé? En fait, il y a trois sujets. Il y a d'abord l'attirance vers quelque chose, ensuite il y a les moyens mis à disposition, on vient d'en parler, et ensuite il y a quelque part le refus de rester là où on est. C'est finalement les trois vecteurs. En fait, l'attirance, vous avez des espèces d'injonctions sociales. Hein, c'est ce qu'avait Jules Clarecy défini dès le départ en 1906. Les Parisiens qui ne sortaient pas, alors que pourtant les Parisiens étaient très casaniers jusqu'au milieu du 19e siècle. Et bien en fait, les Parisiens qui restent l'été, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas parti? Et là, aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer des réunions familiales ou des relations avec des amis. Certains qui disent « Ah ben, pourquoi tu ne profites pas d'aller à tel endroit? C'est pas cher, j'en reviens. Qu'est-ce que tu fais à rester chez toi ?» Donc, il y a une espèce d'injonction sociale. Et puis après, vous avez toute une gamme publicitaire, en fait, de publi-reportages, de publicités telles quelles, avec des espèces de placements produits. Vous avez des reportages qui met en scène des touristes et qui, le sous-entendu, c'est « Mais pourquoi vous n'y allez pas vous-même ?» Donc, en fait, il y a une espèce d'attirance organisée très forte. Les moyens eux-mêmes qui sont devenus rapides et pas cher au fur et à mesure de l'histoire des transports. Et puis ensuite, il y a le fait que le logement, en fait, grosso modo, est de plus en plus mal vécu. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, le logement, le travail, c'était à peu près la même chose. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, le travail s'est intensifié, il y a beaucoup de métiers qui se sont taylorisés avec le taylorisme et pour qui sont devenus vraiment quelque chose de purement alimentaire pour les gens. Et du coup, mais finalement, ils ont éloigné leur logement pour en fait éloigner leur travail alimentaire. Et si en plus on fait du télétravail, ils vont encore plus avoir envie de partir.
Laurent Castagnette, vous venez de parler de télétravail. Est-ce que quand on a passé 2 années de télétravail chez soi, est-ce qu'on ne comprend pas ceux et celles qui veulent partir? Est-ce qu'aujourd'hui la problématique est plus une problématique liée aux citoyens qui se disent « moi je pars en mini-trip ou en vacances » ou est-ce que cette problématique est beaucoup plus importante quand on parle par exemple du trajet de fabrication d'un jeans pour... Fabriquer un jean, c'est à peu près, je crois, 15 000 kilomètres qui sont obligatoires, finalement, parce que entre le coton, entre le bouton pression qui vient d'un autre continent, entre la teinture du jean qui est parti aussi sur un autre continent, le tissage, etc., un jean parcourt, je crois, si ma mémoire est bonne, 15 000 kilomètres. Est-ce que le problème n'est pas là plutôt que de toujours taper sur le citoyen?
Alors déjà, bon, la bougeotte sur le livre, je n'ai traité que le transport de personnes. Cela dit, mon livre précédent, donc Hervor ou la façon que sur les transports traitait un peu les deux avec plutôt la problématique climatique et pollution de l'air. Alors effectivement, c'est un autre sujet de parler des marchandises vagabondes. Hein. Effectivement, avec à la fois les droits de douane qui ont baissé depuis des décennies, plus le transport logistique international qui s'est beaucoup optimisé, qui fait qu'on se retrouve au-delà de ce que disait Adam Smith. Hein. Adam Smith, fin 18e, il disait que lui, il voyait la situation dans laquelle on allait dans chaque pays organiser la production, notamment des denrées alimentaires, pour que ce soit le pays le plus efficace qui le transporte et qu'il y ait des transports directs pour aller vers le consommateur. Aujourd'hui, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que les étapes intermédiaires de fabrication, comme vous le soulignez, font que, en fait, on va faire une partie du travail quelque part, puis retransporter complètement sur des milliers de kilomètres pour retransformer le produit. Et il va faire comme ça presque des fois le tour de la Terre avant d'arriver au consommateur final. Donc ça c'est pour le côté marchandises. J'ai perdu le fil pour votre remarque précédente sur le transport des personnes.
Parce que Cédric soulignait le fait qu'on tape beaucoup sur le citoyen, mais oui. Au fond, on se laisse un petit peu leurrer aussi. Il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités, parce que c'est vrai que les émissions dont vous parlez, on les connaît tous. Hein. Elles sont en général aussi beaucoup quand même sur des chaînes commerciales. Mais pas que. On les trouve aussi sur pas mal de chaînes. Et puis, il y a aussi aujourd'hui les influenceurs également qui vous invitent à voyager et qui vous donnent une idée du voyage qui est souvent très éloigné de la réalité et de la vérité. Et aujourd'hui, on est peut-être culpabilisé ou vous nous culpabilisez peut-être un tout petit peu. Non, vous nous invitez en tout cas à réfléchir à nos déplacements, plutôt, je pense, après avoir vu votre livre. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Mais vous culpabilisez quand même un tout petit peu aussi cette manie que nous avons aujourd'hui de répondre à une fausse nécessité de voyage qui nous est vendue sous toute une série de formes aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux sociaux et partout ailleurs.
Oui, la culpabilisation, elle est partout. Comme je vous le disais, elle était dès le départ. Qu'est-ce que tu fais à rester à Paris alors qu'il y a des trains qui permettent d'aller à Trouville, juste même pour la journée, pas cher, c'était les trains de plaisir de la deuxième partie du 19e siècle. Donc en fait, la culpabilisation, elle est partout. C'est-à-dire, celui qui bouge pas, ben, il est culpabilisé par les autres qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais à ne pas bouger ?» Et puis moi, effectivement, dans le livre, peut-être que je culpabilise un petit peu certaines personnes, mais je dirais tout le monde est concerné, moi aussi, à des degrés divers, sur le fait qu'on sent bien qu'on est un peu coupable. Vous avez des destinations où, alors on va parler de voyage et de destination, il va bien falloir faire la différence, on va en parler, des destinations où en fait d'aller les voir, en fait on va aller voir quelque chose dont on sent qu'on participe à son effondrement en y allant. C'est-à-dire par exemple la ville de Venise, on se demande si dans 50 ans ça sera pas Abu Simbel, c'est-à-dire qu'il faudra extraire quelques palais pour aller les reconstruire plus haut, sauf que aller les voir, mais rien que ça, en avion, ça participe au changement climatique qui fait que ça fait monter les eaux et ça participe de la destruction de cette cité. Donc
c'est pour ça que je pense que c'est plus à la réflexion que vous nous invitez à nous dire, est-ce que véritablement ce voyage à Venise
c'est quoi le voyage en fait, la vraie question c'est celle-là. Historiquement, le voyage c'était beaucoup plus le trajet que la destination. Aujourd'hui, des voyagistes ils vous parlent que de destination et ils vous font rêver de vous faire téléporter à la destination. C'est-à-dire que l'avion aujourd'hui c'est devenu de la téléportation. On vous met un casque, on vous met un film de chez vous, et puis vous êtes débarqué à l'arrivée, alors que historiquement, le voyage, c'était d'abord le trajet. Alors, si on revient au 18e, 19e siècle, évidemment, la pérégrination du voyageur qui allait lentement d'auberge en auberge, etc. Bon, évidemment, ça, on comprend bien que c'était d'abord le trajet, le voyage, ok. Mais plus récemment, si on prend par exemple un film que j'aime bien, Le Corneau, dans les années 60, vous souvenez très bien du crash de la deux chevaux de Bourville, mais la discussion qui vient après est très intéressante parce que Bourville, il dit à De Funès, vous m'avez gâché mes vacances. Je partais pour l'Italie. Alors, il partait pour l'Italie en deux chevaux, vous voyez, de Paris. Donc, vous voyez, le trajet, il y avait plusieurs jours de trajet, il allait forcément passer par la Nationale 7, etc., aller dormir régulièrement avant d'arriver en Italie. Et De Funès lui répond, mais prenez l'avion, ça va plus vite. Et vous voyez quelqu'un qui roule en Rolls-Royce à l'époque, etc., mais qu'est-ce que vous prenez votre voiture pour aller en Italie ? Prenez l'avion, ça va plus vite. Et Bourville lui répond, mais je ne suis pas pressé, moi, monsieur. Et effectivement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Bourville, il ne veut pas du billet d'avion. Parce qu'en fait, dans sa tête, ses vacances, le trajet, ça fait complètement partie de ses vacances. Donc en lui crachant sa voiture, en lui proposant un billet d'avion, en fait, il lui gâche ses vacances. Alors dans le film, ensuite, c'est pas tout à fait ce qui va se passer, parce qu'il va quand même l'envoyer en avion à Naples pour aller récupérer une belle américaine. Donc là, on tombe dans l'extrême inverse, c'est-à-dire la voiture ostentatoire. Donc voilà, c'était vraiment un film sur l'automobile et les transports, hein, Le Corneau, qu'il faut revoir peut-être avec cet angle-là.
Avec beaucoup d'humour aussi, évidemment. L'hypermobilité, on en parle encore quelques instants au niveau des voyages, et vous faites la différence entre le voyage et la destination, parce que effectivement, ce que vous nous expliquez aussi dans votre ouvrage, c'est qu'on n'a plus grand-chose à découvrir sur cette planète où a été découvert, et même les endroits les plus extrêmes nous attirent parfois, malgré la difficulté de pouvoir les atteindre. Vous dites, on est passé aujourd'hui d'une destination pour changer de culture, pour avoir des échanges, à quelque chose de beaucoup plus artificiel. Et que c'est ça aussi qui devrait nous faire réfléchir dans notre façon de bouger.
Oui, bien sûr. Si on regarde les statistiques, là, vous parlez du transport aérien international, en termes d'usage de kilomètres passagers, c'est l'unité, hein, un passager qui fait un kilomètre sur son siège, c'est ça l'unité de calcul. Mais en fait, on se rend compte que les trajets professionnels, c'est mineur, hein, c'est mineur depuis plusieurs décennies. Le premier sujet, c'est d'usage de l'avion international, c'est le tourisme. Et après, vous avez les à côté, enfin, le quasi-tourisme, qui est le fait d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille. C'est quelque part une forme de tourisme. Après, vous avez aussi les pèlerinages, qui sont pas du tout négligeables. Et même jusqu'à des destinations santé. C'est-à-dire, c'est un peu moins cher d'aller me refaire les dents à l'étranger, ben je vais y aller, par exemple. Vous voyez, donc des allers-retours pour qui sont en fait des opportunités économiques sanitaires. Donc voilà, donc toutes ces raisons, on est aujourd'hui sur un usage loisir, en fait, très très majoritaire, oui, effectivement.
Vous dites, le but n'est plus la culture, ni l'échange, mais le confort personnel.
Oui, bien sûr. Et c'est ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pourtant, on avait dans les années 60, le tourisme était vu comme l'échange entre les peuples et favorisant cela. Mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Il y a très peu de voyages où on a véritablement un échange qui soit à niveau égal avec les populations rencontrées, en fait, hein. Donc ça reste vraiment un usage mineur du voyage. Voilà, l'usage majeur, c'est le confort personnel, effectivement.
Alors qu'il ne faut pas forcément aller loin non plus, puisqu'on a une auditrice qui est, ou un auditeur, pardon, qui réagit en disant: j'ai été très mobile et j'ai adoré, même si cela a été fatigant, mon métier, mes enfants et des sorties de nature découvertes passionnantes dans toute la Belgique, surtout, et aussi un peu en Europe. Je le suis moins, mais encore un peu. J'ai pris beaucoup de notes, de photos. Mon mari me dit toujours que je suis super active. Je me dis que dans notre petite vie, il est bon de découvrir ce que cette terre nous offre. Elle est si belle. Et ça commence parfois par une balade dans le grand bois de mon village. Ce qui montre que cette façon de
Oui.
voyager ou d'aller à la découverte de quelque chose, si c'est ça notre envie, ce n'est pas forcément aller loin.
Il est très clair qu'en deux générations, on va dire, hein, on est passé du voyage qui était beaucoup vécu dans des livres, je dirais, on va dire les générations d'aujourd'hui par rapport à leurs grands-parents. Leurs grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient des romans d'aventure, ils échangeaient des timbres-poste. Il lisait des livres. Aujourd'hui, on a l'impression que pour une catégorie de population, l'objectif, c'est pas du tout de documenter en fait le voyage, c'est d'y aller. On l'a fait, selfie à l'appui. Voyez? Donc on est quand même pas de manière complètement généralisée, mais on a quand même une forte proportion où on a perdu en fait jusqu'à la documentation du voyage. J'avais ma grand-mère qui est décédée évidemment maintenant, mais qui à mon avis connaissait des pays étrangers parce qu'elle avait beaucoup lu, mais vraiment bien plus que peut-être moi sur certains pays et beaucoup d'autres personnes qui pourtant y sont allées. Donc voilà, donc on a quand même une... La culture, en fait, c'est trop facile de dire, tiens, je vais connaître tel pays parce que je vais y aller. Vous voyez, je vais connaître peut-être tel pays parce que je vais lire des livres, je vais me documenter sans forcément y aller. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais bouger, mais avoir un peu un équilibre nouveau.
Estelle nous dit toute notre histoire, elle parle de l'histoire de l'humanité, bien entendu, est celle de gens qui ont bougé. J'imagine que ça